C'est extrêmement profond, cette ambivalence-là. Tout le monde, et les juifs et les non-juifs, parlent des événements contemporains depuis une centaine d'années, comme si c'est les juifs qui avaient voulu faire un État d'Israël. Et on ne se rend pas compte que c'est contraint et forcé que les juifs ont fait. Est-ce que c'est clair? Il faut entrer dans les détails. Enfin, du point de vue de l'événement massif, c'est bien évident. Je voudrais ouvrir une parenthèse à la mémoire d'un de nos maîtres qui vient de disparaître à Jérusalem, c'est le Rav Levi Nachman Zichrono Livracha, et qui a donné une fois l'enseignement suivant. Et vous me rappellerez où raccrocher à la fin de la parenthèse, puisque j'ai pensé à lui en disant ce que je viens de dire immédiatement. Et le Rav Levi Nachman avait l'habitude de dire qu'il y a eu trois dimensions, trois niveaux des événements que nous avons vécus. Et dans ces trois dimensions, nous les avons vécus malgré nous. Il y a eu d'abord le fait que le peuple juif a fondé un État au bout de 2000 ans. Eh bien, puisque cela s'est fait malgré nous, quel que soit d'ailleurs le mérite de cette petite avant-garde dont je vous ai parlé, il y avait 600 000 juifs dans le pays à la proclamation de l'État. 600 000 juifs dans le pays à la proclamation de l'État, pas plus, pas moins. Hein. Alors imaginez là. Démographiquement la relation relative entre le nombre de juifs et le nombre d'arabes qu'il y avait au moment de la proclamation de l'État. Tous ces arguments concernant le décalage démographique sont réels en statistiquement, mais sont en porte-à-faux vis-à-vis du récit de la Bible. C'est quand il y a eu 600 000 juifs dans le pays que l'État d'Israël a été proclamé. Imaginez la relation avec le monde arabe. Donc, je reviens au sujet. Eh bien, en dominante, c'était malgré les juifs qui voulaient rester dans leur pays d'adoption. Je me souviens d'avoir vécu cette époque en France. Il y avait énormément peu de juifs en France pour qui c'était évident que leur histoire les menait dans l'État juif qui venait de se fonder. La majorité des juifs français disaient « nous sommes français, nous restons en France, Israël c'est pour les apatrides ». À l'époque on disait la Palestine. Vous vous rappelez de ce vocabulaire? C'est un foyer pour les apatrides. Eh bien, les Britanniques, c'était la même chose. Tous les pays où se trouvaient des Juifs. Et puis, les événements sont arrivés et ont obligé le peuple juif à devenir la nation israélienne. C'est schématique, mais je crois que le Rav a raison de mettre ça en évidence. Il en est résulté un problème insoluble, qui était le problème des réfugiés arabes. La deuxième dimension, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël nous a été imposée malgré nous. Depuis la guerre des six jours, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est malgré nous qu'Eretz Israël est notre pays. On fait tout ce qu'on peut pour s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous avons un gouvernement qui a une conception de sa mission dans l'histoire qui consiste à réaliser l'objectif d'un sionisme seconde manière. Le sionisme première manière, c'était de faire un État juif en Eretz Israël. Le sionisme, deuxième manière, c'est de faire un État arabe en Palestine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans aucun pays du monde, il y a une telle réalité. Alors, je me souviens d'ailleurs, au moment de la victoire de la guerre des six jours, c'était très sérieux. On attendait tout simplement de savoir à qui rendre ces territoires. Moshe Dayan attendait un coup de téléphone d'Aman. Vous voyez à quel point c'est difficile, on ne peut pas les rendre. Je dis, je reviens au problème. Et le deuxième problème insoluble, eh bien, tous les habitants des territoires que nous ne voulons pas. La troisième dimension, c'est la Torah par rapport à Israël. Israël ne veut pas de la Torah, eh bien, ça nous sera imposé par la force. Comment, quand, personne ne le sait, et je ne crois pas que ça sera imposé par la Knesset. Je ne crois pas que ça sera imposé par une majorité de juifs orthodoxes au gouvernement. Bien. Pas plus que, je ne sais pas comment dire, que le Parlement international juif avait décidé d'avoir un État d'Israël. C'est les sionistes qui ont décidé qu'il y aurait un État d'Israël. Bon, vous voyez, sans entrer dans les détails. Et alors, la conséquence serait une conséquence extrêmement grave quand la Torah deviendra la constitution légale de l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, ce dont je vais parler, les autorités rabbiniques à la fondation de l'État n'ont pas voulu que la Torah soit la constitution de l'État d'Israël. Ce que les orthodoxes viennent d'oublier. Les grands rabbins d'Israël, au moment de la fondation de l'État, ont refusé que la halakha soit la loi de l'État. Parce que si la halakha était à la loi de l'État, tout juif qui habite en dehors du pays est considéré comme un idolâtre. Vous voyez la gravité du problème. C'est-à-dire les juifs de diaspora ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi c'est à cause de, grâce à eux, je ne sais pas comment dire, que la halakha n'est pas la loi de l'État. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est écrit en toutes lettres dans la Gemara. Tant que nous avons une constitution plus ou moins ottomane, britannique, israélienne, tout ça mélangé, vous savez ça, hein, alors tous les juifs sont juifs, mais si la Torah est la loi de l'État d'Israël, il n'y a que les juifs vivant en Israël qui sont considérés comme faisant partie d'Israël. Tous les cas particuliers s'étudiant d'après le Shulchan Aruch. Alors, vous voyez, je referme la parenthèse. Voilà ce qu'on apprend. Vahi, pourquoi Vahi? Pourquoi on nous annonce un événement catastrophique? Parce que Béchalar Paro est arabe. Parce qu'en fin de compte, c'est le pharaon qui a envoyé le peuple. Vous voyez les deux lectures? Premièrement, l'information pure et simple. Il arrive à lorsque le pharaon a envoyé le peuple. Mais deuxième lecture du Midrash, il arrive à ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que c'est le pharaon qui a envoyé le peuple. Si le peuple était sorti, ça serait passé autrement. Est-ce que vous avez compris la différence? C'est clair. Et alors, prenez votre texte. Le Midrash va mettre en évidence une particularité de la langue hébraïque, Vaïhi. Il va interpréter le mot, il arrive à que par Vaïhi. Quelqu'un a dit Vaï. Vous savez que ça veut dire Vaï en hébreu. Oï va voï. En yiddish. Vaï, ça veut dire malheur. Alors, le Midrash va se demander qui a dit malheur à ce moment-là. Il y a deux réponses qu'on va lire, on va lire ensemble rapidement. Le pharaon a dit malheur. Et Moïse a dit malheur. Et on essaiera de comprendre la logique de ces midrashim. Alors vous prenez au milieu de la page Zayin. Okay, je vous les ai indiqués par un petit trait. Alors, Davar Vayi Beshalar Paro. Keshechalar Paro et Aham, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, Mi Tzavar Vayi, qui a crié malheur. Man Amar Vayi, dit le midrash à Troma ici, Mi Tzavar Vayi. Paro répond le pharaon lui-même. Machal, à quoi ça ressemble? Le Melech Shehaya Beno Holech le Medina Echad. Un roi dont le fils était allé dans un autre pays. Halach, Veshara Etzel Ashir Echad. Il est allé, il a séjourné, il est habité chez un riche. Vekibele Ashir Beno Shel Melech Ve'ain Tova. Et ce riche a reçu le fils du roi en bonne part, avec un bon, comment on dit Ain Tova, avec bienveillance. Bienveillance. Lorsque le roi a entendu qui a reçu son fils en hospitalité, on va dire en otage, vous savez que c'est la même chose à l'origine, et dans quel pays, il lui a envoyé des lettres à ce riche, à ce notable, disons, Shalach et Beni, renvoie-moi mon fils. Une fois, deux fois, trois fois. Il lui a envoyé un message. Bechol Zman ou Bechol Shah, constamment et à chaque heure. C'est référence à tous les récits précédents où Moïse va chez le pharaon et repart, et retourne, renvoie mon peuple. Jusqu'à ce que le roi est allé lui-même faire sortir son fils par lui-même. Alors cet homme s'est plaint de ce que le fils du roi est sorti de sa maison. Amrolo Shrenab, ses voisins lui ont dit, ça doit être à l'ONU, Lama Tatoek, pourquoi tu cries Amar Lahem, pourquoi tu te plains Kavod Ayali, chez Ayab Noshel Melechetzli. J'avais un grand honneur quand le fils du roi était chez moi. Vous voyez cette chose incompréhensible que les nations ne veulent pas laisser sortir leurs juifs quand le moment est venu. Il leur faut des catastrophes pour les obliger à laisser sortir leurs juifs. Vous avez remarqué ça? Parce que j'avais un grand honneur quand le fils du roi était chez moi, puisque le roi m'écrivait, il s'occupait de moi. Il avait besoin de moi. Et j'étais quelque chose de précieux à ses yeux. Maintenant qu'il a retiré son fils, le fils du roi de chez moi, il n'a plus à s'occuper de moi, il n'a plus besoin de moi. C'est pourquoi je me plains. C'est un midrash extrêmement profond. Hein. Ça veut dire qu'il y a un attachement du pharaon au peuple qui est à l'origine de ces malheurs qui nous sont enseigner. Je dirais tout de suite un peu le fond du problème, c'est que ce peuple est tellement imprégné du lien à l'Égypte, ce lien que le Pharaon a réalisé en Égypte sur le peuple, que la sortie d'Égypte est inachevée. Il faut encore achever cette sortie d'Égypte. Il y avait un de nos grands maîtres, qui était le grand rabbin d'Israël, le Rav Ben Tzion Uziel, Zichrono Livracha, grand rabbin Sfarad, du Rav Kook, et qui disait, nous avons besoin de deux messies. Un qui fait sortir Israël d'exil, et l'autre qui fait sortir l'exil d'Israël. Vous avez compris le... La Chénarine Tzorek, et c'est pourquoi je continue le Midrash, je me plains. Kachamar Pharaon, voilà ce qu'a dit le Pharaon dans cet exemple. Dans ce machal, comment on dit machal en français ? Parabole. Keshehayu Israël etzli, lorsqu'Israël était chez moi, Aya Kadosh Baruch Hu zakukli, le bon Dieu, si j'ose dire, avait besoin de moi. Vaiti safun befanav, et j'étais précieux à ses yeux. Vaya meshaleach li geret, il m'envoyait des épîtres. Bechol Shaha, à chaque moment, Veomer, et me disait, Shemot, chapitre 9, verset 1, Kohamar Hashem Eloi Ivrim, Shalach et Ami. Ainsi dit Dieu, le Dieu des Hébreux, envoie mon peuple. Veya paro shomeam et puis Moshe, et le Pharaon entendait de la bouche de Moïse, Shalach et Beni, renvoie mon fils. Veloheya mevakesh le Shalecham. Et lui ne cherchait pas à les envoyer. Keshe Yara, Bakadosh Baruch Hu le Mitzrayim, lorsque Dieu est descendu en Égypte, Veotzi et Israël, et qu'il a fait sortir Israël, Shenemar Vaer et Latzilo, vous avez la phrase du verset, chapitre 3, verset 8, et je suis descendu pour le délivrer, Miyad, Mitzrayim de la main de l'Égypte, il trille par Otsorek, alors le Pharaon s'est mis à crier, Vaï, chez Shalarti et Israël, malheur à moi d'avoir renvoyé Israël, le Charnemar, c'est pourquoi il est écrit, Vaïhi, et il arriva, sous-entendu un malheur, Béchalar Palo, quand le Pharaon eut renvoyé. Alors vous voyez les nuances même qu'il y a dans ce Midrash et qui sont extrêmement importantes. On est averti à l'avance qu'on est au point de départ comme on dit en français, différer quelque chose sans arrêt. Du fait de différer la réussite de l'événement. Ça va être différé, 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 jusqu'à ce que ce soit évacué. Les causes qui ont fait que c'est pas le peuple qui est sorti, mais c'est le Pharaon qui les a expulsés. J'ai voulu formuler cela de telle sorte que ce soit suffisamment significatif, en tout cas suggestif, pour ce que nous vivons de notre temps. Et au fond, si j'ose dire, toutes les difficultés que nous avons dans la société israélienne, depuis la fondation de l'État d'ailleurs, avec des hauts et des bas, mais surtout dans les moments que nous vivons, viennent en fait très analogues. Il faut réfléchir aux motivations de la Aliyah, pour le dire en hébreu, aux motivations qui ont fait que les Juifs ont quitté la civilisation européenne, en dominant toutes les colonies de la civilisation européenne, pour revenir en Israël. C'est une situation extrêmement analogue. Je schématiserai brièvement ce que j'ai rappelé un jour, je ne sais pas si c'était au cours en hébreu ou au cours en français, c'est qu'on peut schématiquement mettre en évidence quatre types de motivations dans l'Aliyah. Avant cela, je dirais, ce n'était pas perceptible. Ça nous était caché à cause de deux facteurs. Parce que depuis la fondation de l'État, nous étions tous les membres d'une société assiégée. Et dans une société assiégée, il y a une solidarité inconditionnelle. La fracture de la société israélienne en différentes tendances, elle est visible lorsqu'on a le sentiment que la société n'est plus assiégée. Alors elle éclate. Je ne sais pas si je pousse les choses un peu à la limite, mais je veux pour que ce soit clair. Et deuxièmement, nous avons vécu toute une époque, depuis la fondation de l'État jusqu'à il y a 2 ans à peu près, d'une espèce de jubilation extraordinaire de se retrouver au bout de 2000 ans en hébreu, rescapé de 120 exils différents, de 120 cultures, de 120 paysages différents. C'était un événement tellement exceptionnel que ça nous cachait les différences de motivation de ce rassemblement des exilés. C'est juste. Et alors, il semble bien qu'il y ait 4 motivations fondamentalement différentes. Il y a eu celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonim, qui sont devenus israéliens, je schématise beaucoup, hein, parce qu'à l'échelle individuelle, tous les cas de figure sont possibles, pour pouvoir ne plus vivre la condition de juif qu'ils voulaient rejeter, la condition sociopolitique de juif de l'exil. Mais avec la condition sociopolitique des juifs de l'exil, ils voulaient rejeter l'identité juive de l'identité juive qu'ils rendaient responsable de cette situation sociopolitique. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Voilà une première tendance. Et c'était des sionistes en béton armé. Et puis, une deuxième tendance, c'est plus facile à définir, à reconnaître, c'est les juifs qui sont venus en Israël pour pouvoir vraiment être juifs. Vous voyez à quel point c'est différent. Ils avaient une alliance entre eux. C'était le Mapai et le Mavdal, et le Mzahi, si vous voulez. Mais cette alliance a volé en éclat lorsque les conditions qui l'avaient permise ont disparu. Il y a une troisième fraction de la population israélienne. Ce sont ceux qui sont venus en Israël parce que c'est la Terre Sainte. Ils sont complètement en dehors de l'objectif du sionisme. Et simplement, l'État juif fondé par les sionistes leur permet la possibilité de vivre en juif sur la Terre Sainte. Ils n'ont rien à voir avec le projet sioniste. Et puis une quatrième partie, semble-t-il, c'est celle-là qui a pris le pouvoir, qui sont des juifs qui, même en hébreu, sont restés cosmopolites. Quelle que soit d'ailleurs leur idéologie avouée, ou leur idéologie... Et effectivement, il semble bien que ce sont les intérêts d'une espèce d'identité juive cosmopolite à l'israélienne qui prennent le dessus dans les nouveaux objectifs de la société israélienne contemporaine. C'est tout ça qui est en gésine, qui est en bouleversement. Et alors, c'est extraordinaire de voir à quel point c'est parallèle à ce qui s'est passé au temps de la sortie d'Égypte. Lisez le Midrash attentivement, vous allez retrouver ces quatre catégories. D'ailleurs. Alors j'avance. Je crois que l'on pourrait formuler, si vous voulez, la leçon tirée de ce premier Midrash, c'est que nous sommes sortis d'Égypte avec une imprégnation de, je cherche encore le même mot en français, de l'influence du pharaon et de sa civilisation sur Israël. Et c'est cette imprégnation du pharaon dont il faut se désintoxiquer jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est clair? Je vais donner une indication qu'il y a dans la Agada de Pessah. Vous allez m'aider à retrouver cette pisca. C'est après Manishtana, lorsque le Magid répond à la question des enfants et qu'il dit Avadim Aïnou, les pharaons de Mitzraïm. Veilu, l'Otsi Akadosh Baruch Hu et Avotenu, mais Mitzraïm, Avadim Aïnou, Sira, Harean Bnevanenu, Avadim, les pharaons de Mitzraïm. Et je vous traduis très en schématisant, d'ailleurs j'essaie d'en schématisant. Nous étions esclaves au pharaon en Égypte. Et si Dieu n'était pas intervenu pour nous sauver de l'esclavage d'Égypte, nous serions encore, nous et nos ancêtres et nous et nos descendants, asservis au pharaon. Et alors le sens qui apparaît de là, c'est que nous sommes sortis d'Égypte. Mais en Égypte, nous étions asservis au pharaon. Et simplement, nous sommes sortis d'Égypte. Mais nous sommes encore asservis au pharaon. Alors il faut évacuer cet asservissement au pharaon et à tout ce que ça représente du point de vue de l'identité culturelle d'Israël de ce temps et qui nous accompagne jusqu'à présent. Est-ce que c'est clair jusque-là? Okay. Voilà pour le premier midrash. Alors on va voir le midrash suivant. Davaraché, Vayi, Beshalach, Paro. Autre enseignement, et il arriva, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, Miyamar Vayi, qui a dit malheur. Moshe à Marvaï. C'est Moïse qui a dit malheur. Oui, c'est très paradoxal apparemment. Le pharaon, qui se plaint? Le pharaon et Moïse. Le pharaon aurait dû se réjouir de se débarrasser des plaies d'Égypte, puisque, en fin de compte, il avoue, allez-vous-en, parce que si vous êtes là, nous allons finir par disparaître. Comment dire ça? Parce qu'on a vécu ça sous différentes formes dans les temps contemporains. En fin de compte, il vaut mieux se débarrasser de vous malgré ce que vous nous apportez comme intérêt lorsque vous êtes chez nous. Vous voyez à peu près cette ambivalence de la relation du pharaon à Israël. Alors, Miyamar Vayi, Moshe, Machal, l'Echad Shenarasa, le Bito Shemener Shushbin. Ça ressemble, dans cette parabole, à quelqu'un qui a été fait. Les Shushbinim, c'est ceux qui accompagnent la fiancée à la choupa. Comment on dit en français? Ce n'est pas les témoins, hein? Oui, garçon d'honneur. Alors, ça ressemble à quelqu'un qui a été fait garçon d'honneur de la fille du roi. Or, il a vu dans son horoscope qu'il la ferait sortir de la maison paternelle, mais qu'elle n'accompagnerait pas dans la maison du mari. L'échoupata pour le mariage. Il a commencé à pleurer. Amroulo. On lui a dit, mi penemata boche, pourquoi pleures-tu? Amaraem, il leur a dit, boche ani, je pleure. Shenitia garti leotia, j'ai fait effort pour la faire sortir de chez son père. C'était un père, comment on dit ça, paratre, ça dit ça. pour la faire sortir, veni ba'i malachubata, et que je ne vais pas l'accompagner au mariage. Karama Moshe, ainsi Moïse a dit, Tzorekani, je crie, c'est Nityagarti, le aussi d'Israël et Mitzraï, parce que je me suis fatigué pour faire sortir Israël d'Égypte, veni nichnas imaim laret, et je ne rentre pas avec eux au pays, les rares vaïe bachalar. Ça ressemble tellement à ce que nous avons vécu avec Herzl. Il s'est fatigué pour nous faire sortir dehors, mais il n'est pas venu avec Nice. On a amené son cercueil, simplement. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, il faut donc comprendre ce qui se passe entre Moïse et le peuple pour pouvoir comprendre pour quelle raison, dès le début, il est averti, il le sait, qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Et donc, ça signifie que il y aura donc à la fin des temps un événement où il reviendra pour rejoindre Israël à la fin des temps, dira le Midrash. Et là, c'est effectivement une des questions extrêmement importantes. Pourquoi Moïse n'est pas entré en Eretz Israël alors que Moïse a réussi à faire sortir Israël d'Égypte, mais n'a pas réussi à faire entrer Israël en Eretz Israël. C'est Josué qui a dû le faire. Alors oui, tous ces éléments en faisceau se rattachent à ces trois mots du début de notre texte. Tout cela arrive parce que c'est le pharaon qui a renvoyé le peuple. Et déjà, on est averti. En gros plan alors, nous allons lire le texte, qu'il y aura le passage des 40 ans au désert. Il va y avoir cette parenthèse du désert qui va tellement peser sur l'avenir de notre histoire depuis ce temps-là. Et je citerai d'abord un des enseignements du Shla. Il dit qu'il y a là une structure de la destinée du monde qui est extrêmement importante à comprendre. Nous allons de niveau d'être à niveau d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous gravissons, vous ne voulez pas dire gravir, mais enfin, la destinée du monde, c'est de passer des destinées de la matière, aux destinées de l'esprit, des destinées de l'esprit, des destinées de la valeur, etc. Nous passons de niveau d'être à niveau d'être. L'expression niveau d'être, j'y tiens beaucoup. La première fois que je l'ai entendue, c'est de Madame Amado Valensi. Elle éclaire beaucoup ce que Laurent Foucault appelait les madrigotes. Il y a des niveaux en tout. Besseder Madriga. Il faudrait dire Besseder Madriga aussi. Enfin, pour ceux qui savent lire le verset. Et alors, le Shla enseigne, entre un Yesh et un autre Yesh, il y a toujours un temps de Aïn. Je traduis. Entre un niveau d'être et un autre niveau d'être, il y a un néant qu'il faut arriver à traverser. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, cette structure de l'Égypte, le désert, Israël, eh bien, il faut y passer. Il y a une désintoxication du passé pour pouvoir vivre vraiment l'avenir. Et si on n'est pas vraiment désintoxiqué du passé, l'avenir est intoxiqué. Bon, je crois pas qu'on puisse le dire d'une autre manière que cela, c'est suffisamment évident. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est restée dans la mémoire. Il y a une vingtaine d'années, non, je crois 25 ans, j'avais un ami qui habitait Petah Tikva. Un Israélien, je veux dire un tzabar, j'allais dire un indigène. Comment dire un tzabar en français, hein? Un natif, oui. Né israélien, il était né palestinien d'ailleurs à l'époque. Et puis, qui un jour était très très en colère. Très en colère. Pourquoi? Il dit, jamais à Petah Tikva de ce temps, on a mis des serrures sur les portes. Il a fallu mettre des serrures pour les portes. Je dis, pourquoi? Il m'a répondu une réponse violente, hein, parce que les Juifs sont arrivés. C'est un Israélien qui parle. Vous avez compris le. C'est-à-dire, il y a eu une première vague, si vous voulez, de fondation du pays par les Khaloutsim, et puis les autres ont suivi. Et alors les autres ont suivi, pas désintoxiqués de ce que les fondateurs du sionisme avaient fait. Les fondateurs du sionisme s'étaient détachés de toute identité antérieure. Et alors, ça leur a permis de faire ce qu'ils ont fait, je suppose. Je ne suis pas en train de vous faire un plaidoyer pour la négation du passé, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire, ils avaient compris qu'il fallait se réhébraïser. Et pour se réhébraïser, ils ont pris le parti de se déjudaïser. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là, okay? Et puis, si les choses étaient bien passées, eh bien les Juifs, vraiment Juifs, arrivés après, les auraient aidés à se hébraïser en tant que Juifs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Juifs qui sont arrivés n'étaient pas hébraïsables. Enfin, vous continuez vous-même l'analyse. Bien entendu, tous les cas d'exception sont possibles et existent, mais grosso modo, schématiquement, c'est pratiquement ce qui est arrivé. Dès qu'on entend « Moïse ne viendra pas avec eux », ça veut dire que c'est un peuple privé de Moïse qui rentre en Israël. Je donnerai simplement une image. Moïse les a amenés au plus haut, le Sinaï. Et puis, il y a une descente à pic en bas, et d'en bas, il faut remonter lentement, lentement, jusqu'à retrouver le même niveau qui a été donné au Sinaï, mais acquis par l'effort d'Israël lui-même. Est-ce que c'est clair, ce chemin? Donc, au fond, c'est finalement très rassurant, tout cela. Parce que ça décrit les difficultés en les accusant, mais en même temps, ça les formule dans une perspective qui nous fait comprendre quel est le lien entre le commencement et la fin. Alors dire que, à la fois, que ce n'était qu'un commencement, et que cependant, ce commencement est irréversible, donc commencement, c'est plus contradictoire. Est-ce que c'est clair? Alors rappelez-vous d'où nous étions partis, du fait qu'il faille commémorer Pessah. Et c'est une règle très générale. Tout ce qu'il faut commémorer, c'est le signe que ce n'est pas encore réussi. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi... Non, je ne rentre pas dans le « c'est pourquoi ». Ça, on étudiera à propos de Pourim. Vous vous rappelez de ce qui est enseigné, qu'à la fin des temps, on ne pratiquera plus que Pourim et qui Pourim. Vous vous rappelez de ça? Okay. Ça, on verra à propos de Pourim. Alors, on va lire les quelques versets du début de la paracha et pour bien comprendre comment est annoncée la nécessité de ces 40 ans du désert. Quelle est l'importance du problème? C'est qu'ici, nous avons un des textes de base qui répond à la question très importante pour la société juive contemporaine: quel était le tachlit, et de moi traduire l'objectif plus que l'objectif, le tachlit. L'objectif, mais c'est plus que ça, la finalité de la sortie d'Égypte. Et il y a, dans le monde juif contemporain, la même question que je vais d'abord formuler au niveau de la sortie d'Égypte elle-même. Est-ce que la finalité de la sortie d'Égypte, c'était d'aller au Sinaï, recevoir la Torah, et ensuite, deuxième problème, on va ou on ne va pas en Eretz Israël? Ou bien est-ce que la sortie d'Égypte avait pour finalité d'aller en Eretz Israël, et en Eretz Israël de recevoir la Torah? On est tellement habitué à la première formule, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, que ça nous empêche de lire le récit dans l'ordre, et de nous apercevoir, et de s'apercevoir que ce que la Torah enseigne, c'est là... C'est l'autre formule. Effectivement, nous allons voir comment est formulée la raison pour laquelle, en fin de compte, Israël passera par le Sinaï. Aucune allusion à la révélation de la Torah. Alors j'ai bien conscience que ce que je vous dis là est dépaysant. Parce qu'on a tellement l'habitude de la succession des événements dans cet ordre, sortie d'Égypte, Torah au Sinaï et après en Eretz Israël, qu'on s'est habitué à fonder la conception diasporique du judaïsme. C'est-à-dire, si on sort d'un exil, d'un ghetto, eh bien, c'est pour aller dans un autre ghetto jusqu'à la fin des temps où le Messie viendra pour nous ramener en Eretz Israël. Mais entre-temps, il faut aller à l'Yeshiva. Il faut aller au Sinaï apprendre la Torah. Vous voyez la différence? Alors que l'ordre de l'enseignement de la Torah est tout à fait différent. La sortie d'Égypte en vue d'aller en Eretz Israël recevoir la Torah. D'après le verset, « Kimitzion tetzetora ». Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des causes secondes qui ont joué qui empêche Israël d'entrer en Eretz Israël, et alors si déjà on passe au Sinaï pour faire un stage avec Moïse pour recevoir la Torah. Mais c'est a posteriori, et c'est secondement. Je vais répéter ça parce qu'il faut que ça soit bien clair. Bien, et je vous prends peut-être 5 minutes de plus, je reviens tout de suite et on va relire les versets, relisez-les vous-même. Vous allez voir qu'il n'y a aucune allusion au Sinaï comme motivation de ce passage au désert. Je reviens. De la sortie d'Égypte se heurte à un obstacle inattendu qui oblige Israël à passer 40 ans dans le désert, et ça commence par le passage de la mer Rouge, par le Sinaï, par tous les autres événements et de ces 40 ans dans le désert. Alors Bailly, Béchalar paro et Aham, et il arriva lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, il faut donc traduire lorsque ce fut le pharaon qui renvoya le peuple, Velon Naham Elohim, et Dieu ne les a pas conduits. Ce mot de Naham, faites bien attention, ressemble beaucoup au mot qui va suivre, Peninahemaham. Mais Rashi précise, il faut le lire, Naha Otam, ne les a pas conduits. Malgré tout, il y a une assonance, Velo Naham Elohim, et Dieu n'a pas eu compassion d'eux. Mais ça veut dire littéralement, ne les a pas dirigés, derrière par le chemin, Eres Pelishtim, du pays des Philistins, qui est le chemin de la côte. Kikaogu, car il est proche. Il est proche. L'explication, c'est Vous en aurez après une deuxième lecture. Il est proche de l'Égypte. Et s'il y a un obstacle, on risque facilement de retourner en Égypte. Est-ce que c'est clair? Kikara, vous, le pshat, vous, va sur le derer. Mais comme en général, derer, c'est au féminin, et qu'ici, vous, c'est au masculin, bien qu'on puisse, pas toujours, mais quand même, derer, employer derer au masculin, derer s'emploie soit au masculin, soit au féminin, mais surtout au féminin. Et ici, c'est employé au masculin, il y a une autre lecture, je vous en ai tout à l'heure. Qui amar Elohim, car Dieu s'est dit, Peninachem ha'am, de peur que le peuple ne regrette, Birota milchama, en voyant la guerre, Veshavu Mitzrayma, et ne retourne en Égypte, c'est-à-dire ne fasse à Yerida. Vous voyez à quel point c'est parallèle. Okay, et je vous raconte une petite anecdote très rapidement que j'aime bien raconter parce qu'elle est très significative. Il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, j'avais été invité à une assemblée mondiale de la Viso qui se trouvait à Jérusalem, mais j'ai été invité par les délégations françaises à faire une conférence. À la fin de la conférence, il y a une des présidentes de la Viso. Qui est venu me trouver, il me dit, monsieur le rabbin, j'ai un service à vous demander. Je dis, oui, pourquoi pas, si jamais je peux vous le rendre. Il me dit, écoutez, mon fils vous connaît, je vous en prie, essayez de l'empêcher de faire ça à lire. Alors je la regarde, il dit, vous me demandez ça à moi. Alors je dis, comprenez, monsieur le rabbin, il y a la guerre. Alors je l'ai regardé. Vous voyez à quel point c'est le verset, okay. Et c'est une mère de famille, je comprends très bien, il y a la guerre. Et alors, j'ai répondu spontanément, alors pour votre fils, il y a la guerre. Pour mon fils, il n'y a pas la guerre. Elle a eu honte, elle s'est tue. Et ça s'est arrangé, le fils a fait la halia, il a officié l'armée israélienne, c'est tout va bien. Mais pour vous dire, la raison, invraisemblable. Okay, et c'est déjà renversé. Okay. Ils sortent d'Égypte, ils savent très bien qu'ils vont aller conquérir le pays de Canaan. Et qu'est-ce que dit le verset? Ils risquent de retourner s'ils voient la guerre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur donne le pays sur un plateau du Golan? Vous avez compris. Alors, je revois tous ces interviews toute la semaine. Aujourd'hui encore, j'ai assisté par la télévision à ce qui s'est passé à la Knesset et Motagour, le ministre de le vice-ministre, qui répondait à toute une série d'interpellations. Il dit oui, il faut savoir que il faut s'attendre à avoir des morts et des morts et des morts et des morts et des morts. Et vous voyez quel est le problème. Alors, quand c'est des morts pour avoir la victoire, mais quand c'est des morts pour partir du pays, ça c'est une autre histoire. Vous voyez à quel point la Bible est impitoyable. Elle nous raconte notre histoire et on ne peut pas tricher. C'est pour ça que je vais raconter je vais raconter une autre histoire. La Péjufinichée m'a demandé une fois de participer à un séminaire de leur cadre à Jérusalem. Et le problème qu'ils avaient à résoudre, c'était que les propagandistes américains de l'appel du filifié d'Amérique avaient une propagande qui ne leur plaisait pas du tout aux Français, c'était de dire, ou bien vous envoyez vos fils se faire tuer pour Israël, ou bien donnez-nous de l'argent. Voilà, grosso modo, ça revient. Ils disaient, non, trouvez-nous un slogan différent. Et je vous assure que l'atmosphère était très tendue, parce qu'ils sentaient quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors, je leur ai trouvé le slogan suivant. C'est « Ou la pelle, ou la pioche. » C'est pas possible. Eh bien, ils n'étaient pas contents. Alors, on revient. Et alors, voilà. Voilà ce qui se passe. L'argument qui est donné, c'est que on ne va pas rentrer directement en Israël. 11 jours de marche, dira un autre verset. De l'Égypte à Jérusalem, 11 jours de marche pour arriver à Kinetzion Tezetora. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement de la Torah, un diagnostic, ce peuple aura peur de la guerre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est de ça qu'il s'agissait. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et alors, verset suivant. Vayasev Elohim et Ha'am. Alors Dieu fit contourner le peuple, Derech Hamidbar, par le chemin du désert, Yamsouf, la mer des gens. Vachamushim Aloubne Israël, Meret Israël. Et les enfants d'Israël sortirent en rang par cinq, et Rashi va nous expliquer, ça veut dire en rang de guerre, armés en guerre, Vachamushim, Allo Ben Israël. Regardez la contradiction. Comment? Tu viens de dire qu'on a peur, qu'ils ont peur qu'ils voient la guerre, et après tu conclus en disant, et les enfants d'Israël sont sortis armés en guerre. Contradiction, c'est clair. Remarquez une chose, il y a trois fois le mot de Ham. une fois le mot de Bnei Israël, et plus loin dans le texte, vous verrez, Bnei Israël, Yotzim, Yadrama, et les enfants d'Israël sortaient en guerre, la main haute. Il y a 5 appellations, 3 le peuple et 2 les enfants d'Israël. Je vais assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour bien préciser cela. C'est une des catégorisations que le Midrash va nous donner. Il y a différents niveaux de l'intensité de l'identité d'Israël, comme dans la Neshama, il y a différents niveaux de la Neshama. À l'échelle individuelle, chaque individu a différents niveaux d'être dans son âme. Je vous l'ai dit en hébreu, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le niveau de Nefesh, le niveau inférieur, la Yechida, le niveau supérieur, il faudrait trop de temps pour traduire tout ça, mais essayez de comprendre qu'il y a des niveaux de l'être au niveau de l'âme. Le corps n'arrive à incarner que le niveau inférieur. À l'échelle d'une collectivité, il y a aussi ces 5 niveaux. Les 3 niveaux inférieurs sont appelés le peuple, les 2 niveaux supérieurs sont appelés les enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair? Et alors, la logique de cette catégorisation nous montre ce qui se passe. Mais chaque fois que la Torah emploie le mot « le peuple », il faut se référer au chapitre 12 de l'Exode, dans la paracha de Bo de la semaine dernière, c'est l'ensemble des non-hébreux qui sont sortis avec les hébreux d'Égypte, en même temps que les bénis Israël, les descendants des tribus hébraïques, et que Moïse a intégré au peuple. C'est le sujet du Elevav, les non-hébreux qui sont adjoints à Israël à la sortie d'Égypte, que je traiterai plus en détail à la paracha qui dit ça dans quelques semaines. J'espère que c'est moi qui serai là. Espérons. Sinon, quand je reviendrai, on l'étudiera. Ça veut dire que, étant donné l'influence de cette partie d'Israël qui est très égyptianisée, 3 fois le peuple, ce n'est qu'au niveau 4 et au niveau 5 qu'on les appelle les enfants d'Israël. Alors ceux-là sont prêts à... Alors, c'est la raison pour laquelle il a fallu faire ce détour dans le désert. Je ne veux pas vous scandaliser et vous dire que si la révélation du Sinaï a eu lieu, c'est à cause des étrangers, parce que les enfants d'Israël n'en avaient pas besoin. Allez, scandalisez-vous. Bon, enfin, il y a un peu de ça. Et alors, ça me rappelle, regardez à quel niveau nous sommes tombés. Ça me rappelle ce que j'avais dit une fois avec un de mes maîtres, c'est Jacob Gordes, qui nous disait, est-ce qu'on a besoin de dire à un pompier, premièrement, le feu ça brûle, deuxièmement, l'eau éteint le feu? Si on a besoin de dire à un pompier, je vais te donner le choix d'un ordre du pompier, c'est que c'est pas un pompier. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Est-ce qu'on a besoin d'enseigner la Torah à Israël? S'il faut enseigner la Torah à Israël, c'est que c'est pas Israël. Enfin, pas encore. Vous voyez, c'est clair? Non, il faut pas que ce soit clair. Vous voulez que je durcisse un peu? Je vais montrer. Le soir du CV, on dit une chose étonnante. Et si nous avait amené au pied du Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Pélé. Et alors, d'ailleurs, le rabbin Yosef a continué, c'est écrit dans son commentaire. Il fait semblant que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague, il y croit. Et la suite, c'est et si nous avait donné la Torah, nous avait pas fait rentrer en Eretz Israël, ça nous aurait suffi. Et il l'a dit. Donc, vous savez ça? Non? C'est pas la fin de Dayenu? Ah ben, je vous apporterai le livre. Il a écrit en clair. Sous forme de blague. Mais c'est pas une blague. Vous avez énormément de juifs qui pensent. Et si nous avons donné la Torah sans RSS, mais ça nous suffit. C'est clair ou pas? Vous voyez à quel point ces sources-là sont impitoyables. Arrêtez, c'est qu'on ne sait pas lire. Voilà ce que ça veut dire. Alahat, kama, vikama, tubak, fulam. Voilà tous les cadeaux qu'on nous a fait, qu'on aurait dû obtenir par nous-mêmes. Et si nous avait amené au pied du Sinaï, et nous avait pas donné la Torah, ça aurait dû nous suffire. Ça aurait dû nous suffire. On arrive au Sinaï, et nous, Israël, nous avons la Torah parce que nous sommes Israël. Il a fallu, non, qu'on nous dit le manuel du pompier. Voilà, vous avez compris. J'ai poussé les choses un peu à la limite. Il faut redécouvrir que les Juifs doivent redevenir hébreux. Est-ce que c'est... Alors voilà, la prochaine fois, on prendra la paracha suivante. Ce que je vais vous demander, c'est la paracha de Yitro. Je vais vous demander ces 2 choses. C'est vraiment de préparer les questions que vous allez me poser sur la paracha de Yitro. Et pour ça, lire la paracha, bien entendu. Vous avez vu comment je me suis pris? pas à lire la paracha à l'avance. Et puis, je préférerais répondre à vos questions comme mienne, sinon je choisirais des sujets. D'autre part, je vous signale, et on s'arrêtera là, que nous avons une habitude. Le jeudi de la paracha de Yitro, d'avoir une fête, surtout chez les Sfaradim, qu'on appelle Seudat Yitro ou Moshe. Je vous expliquerai très brièvement de quoi il s'agit. La Torah raconte que lorsque Yitro est venu rejoindre Moïse, ils se sont assis à un festin. Et alors, pour commémorer cet événement, le jeudi, d'avant le Shabbat de Yitro, alors on mange un repas de fête, en général chez le Nord-Africain, c'était un couscous au poulet. Je ne sais pas si les Marocains, les Tunisiens, c'est la même chose, mais chez les Algériens, je peux vous dire que oui.
Pigeon. Même...
Ah, pigeon. Non, ça, c'est autre chose. Vous avez bien fait de me dire. En plus, d'autre part, dans les communautés tunisiennes, cette même fête de Yitro est devenue la fête des enfants, parce qu'il y a eu des garçons, exact, parce qu'il y a eu un miracle de l'arrêt d'une épidémie qui touchait les garçons juifs en Tunisie ce jour-là. C'est bien certain. Et alors, on l'a fait tout en miniature. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était les petites gargoulettes, vous voyez. Et alors, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire sourire. Il y a une tradition chez les Nord-Africains, il fallait mettre le couscous sur l'armoire pour le mettre à l'abri des chats. Vous savez pas ça? Parce qu'on craignait que le chat vienne voler. Vous avez déjà oublié votre folklore? Non, je parle au Nord-Africain, mais... Et ce jour-là, d'ailleurs, tous les gosses juifs ont donné congé au Talmud Torah, avaient des seaux d'eau et couraient après les chats pour arroser les chats. Vous avez oublié tout ça, hein?
Moi? On appelait ça la fête des chats.
Tu te rappelles? Tu vois? Alors, je vais expliquer de quoi. Je vais vous expliquer de quoi. Regardez, il n'y avait aucune tradition que... lorsque Moïse et Aaron ont offert le festin à Jéthro, c'était un couscous au poulet, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on l'a appelé Jéthro, parce qu'on l'avait tellement servi qu'il a dit Jéthro. Et alors que le chat est venu et il a emporté le poulet. C'est devenu une tradition folklorique que tous les enfants pendant 2000 ans, 4000 ans se sont racontés, et puis le sens s'est perdu. Alors je vous dirais ça, c'est très simple. Il est dans un midrash. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont cités dans la Bible, sauf le chat. Alors il faut savoir que le chat était une divinité de l'Égypte. Parce qu'ils avaient les silos de blé, ils avaient besoin des chats pour les souris et les rats. Effectivement, c'était une divinité de l'Égypte. Et alors, c'est pourquoi le chat représente dans cette histoire folklorique que l'Égypte voulait s'interposer, le pharaon s'interposer entre Jéthro, Moïse et Aaron. Regardez à quel point derrière ces histoires folkloriques, il y a des choses fondamentales. En tout cas, j'ai commencé à mieux comprendre toutes ces choses-là quand Sadat est arrivé en Israël et qu'on a vu sur les écrans de télévision la tête de Sadat. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point, bref, ça ressemble. Et d'ailleurs, dès qu'il est arrivé à la Knesset, il y a eu un chat U, parce qu'il y avait le chat. Il y avait le chapitre. Bon, alors on s'arrête là, on se voit la semaine prochaine.